Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'interviewe Vivien Hayes, jeune photographe qui va nous parler de son voyage en Scandinavie avec un budget extra serré. Il nous parle également de cette notion de lâcher prise qui est pour lui l'essentiel de ce qu'il anime dans tous ses projets, notamment la photographie. J'ai eu la chance de rencontrer Vivien lors de son exposition photo réalisée dans le jardin de la maison de sa mère. Vivien m'avait été présenté par un ami commun qui m'avait dit « Tu verras, je crois que son expo va te plaire ». Il ne pensait pas si bien dire. Lors de notre rencontre, nous avons beaucoup échangé sur le voyage, la photo et également d'autres sujets tout aussi intéressants les uns que les autres. Naturellement, j'ai eu envie de partager avec vous cette belle rencontre. Bonjour Vivien.
Bonjour Thierry.
Donc ici on est, tu peux nous dire où c'est qu'on est ici là ?
Donc nous sommes chez ma mère, là où j'ai grandi. Donc le jardin dans lequel j'ai exposé, là où nous sommes rencontrés.
D'accord. Et donc est-ce que tu peux me faire une petite présentation pour qu'on puisse se connaître ?
Donc je m'appelle Vivien, j'ai 26 ans. J'ai étudié la photo sur Toulouse à l'ETPA. J'ai obtenu mon CAP et mon BTS en 2013. À la suite de ça, j'ai poursuivi les petits boulots pour pouvoir... avoir un certain budget, on va dire, pour pouvoir réaliser mes projets photos. Donc j'ai travaillé en hôtellerie, en restauration, j'ai travaillé longtemps dans les champs, j'ai nettoyé les voitures, j'ai livré et j'ai découvert le travail d'auxiliaire de vie.
D'accord.
Par le biais d'une personne que j'ai rencontrée de façon hasardeuse, qui est devenue maintenant le papa de mon filleul, qui m'a donc fait découvrir le travail d'auxiliaire de vie. Et c'est également lui qui m'a fait découvrir un documentaire dont nous avons parlé, La Révélation des Pyramides. Donc à la suite de ce documentaire, je me suis dit, qu'est-ce qui se trouve à ma disposition, on va dire, pour pouvoir traiter ce sujet-là à mon niveau, à mon échelle et sans a priori ni connaissance, en fait, de façon totalement innocente. Et donc j'ai commencé à ce projet des dolmens, des menhirs, enfin tous les sites mégalithiques, j'ai commencé en allant dans la région du Lot, dans les alentours de Rocamadour. Et donc j'ai fait mes premières photographies de dolmen, aussi la première fois que j'en voyais. Donc déjà il y a cette découverte à la fois personnelle et à se dire c'est réalisable en fait, c'est possible. Et à la suite j'ai poursuivi, donc j'ai fait le Lot, ensuite je suis monté évidemment en Bretagne sur 2 semaines. Donc c'est là qu'a commencé mes périples quoi.
D'accord, tes périples. Alors tu vas nous parler un peu de tes périples, de tes voyages, parce que tu as fait des voyages donc sur une thématique qui est... tu peux nous en parler un petit peu de la thématique ou est-ce qu'il y avait un lien dans tous ces voyages ?
La thématique déjà c'est à titre personnel je pense, c'est aussi se découvrir soi-même et aussi juste découvrir la notion du lâcher prise en fait.
D'accord.
Surtout ce lâcher prise et puis le fil conducteur restait en effet ces sites mégalithiques mais également le voyage. En fait les deux se mariaient quoi.
D'accord, se mariaient bien quoi. Donc les deux étaient... est-ce que les deux étaient prétextes à partir ou est-ce que... autrement dit, quelle est la cause et je ne sais pas si j'exprime bien la question.
Si. Est-ce que c'est ce projet qui m'a stimulé ou le voyage ?
Voilà, c'est ça.
Je pense que c'est les deux.
C'est les deux,
ouais,
d'accord.
C'est déjà d'un aussi se dire que je pouvais le faire. Juste me rendre compte que j'étais capable de le faire et donc du coup forcément ça alimente l'envie quoi.
Ouais,
on s'est dit si on est capable de faire 4000 bornes à dormir dans sa voiture, on va faire ça un peu plus haut et ainsi de suite, tout en restant évidemment dans des pays où je pouvais retrouver cette thématique pour pouvoir continuer à...
Alors là c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu as un peu parlé de ce dont je voulais parler et t'as mené, c'est ton fameux voyage un peu loin dont tu vas me parler et tu vas me parler dans quelles conditions tu l'as réalisé. S'il te plaît, ça m'intéresse.
Donc ce fut le voyage dans les pays scandinaves. Donc on a loué une voiture au Danemark.
Excuse-moi, tu es allé au Danemark donc en avion, c'est ça ?
Voilà, donc de Toulouse, je suis allé rejoindre l'ami en question qui a étudié la photo avec moi à Madrid. De Madrid, nous sommes allés à Copenhague où nous allons louer une voiture. On devait louer nos Palmer Riva, on s'est retrouvé avec une BMW Coupé Sport. Donc c'est-à-dire l'extrême opposé en fait de la demande. Donc déjà il y a eu l'appréhension du véhicule, c'est-à-dire que jamais j'ai connu un véhicule comme ça, puis c'est 50 000 euros dans les mains, dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une estimation de plus de 5 000 km à faire, à dormir dedans.
À dormir dedans, oui.
Voilà, donc déjà il y a cette anecdote qui est assez marquante, c'est-à-dire être capable de se dire, de se faire mal physiquement pour qu'il n'arrive rien à cette voiture. Quoi. Donc déjà ça. Et donc, c'est 2 semaines de parcours autour de la Norvège, les fjords, le nord, où on a pu découvrir en effet des choses assez extraordinaires et même rares. C'est pour ça que je ne compte pas réitérer ce voyage-là, parce que c'est assez exceptionnel.
D'accord. Tu as peur effectivement que ça soit jamais aussi bien, peut-être c'est ça ?
Pas forcément aussi bien, mais le bonheur détaché qui s'est passé à ce moment-là, je ne pense pas qu'il soit reproduisible.
D'accord, oui, tout à fait, oui.
Donc voilà, c'est 2 semaines à dormir dans une cette voiture-là en question, à découvrir le froid également, et puis laisser lâcher prise en fait.
Donc tu parles de froid parce que c'était à quelle saison que tu y es
en hiver.
En hiver. Donc en hiver, effectivement en Scandinavie, il ne faut pas s'attendre à la chaleur. Donc fatalement, c'était quelque chose qui était. Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais le froid? Parce que venant de Toulouse, c'est difficile un petit peu de se dire qu'on connaît vraiment le froid, quoi.
Eh bien, lui est breton, moi j'étais toulousaine. Ouais. Donc, à part les Pyrénées où j'ai fait du ski quand j'étais petit à Saint-Lary et lui allait 5 fois dans les Alpes, on ne connaissait pas le froid.
D'accord, ni le froid ni la neige.
Voilà, en telle quantité. La glace surtout, le verglas et la conduite
dans ces conditions.
De surcroît. Voilà.
D'accord.
Donc il y a eu cette découverte-là. Et puis c'est juste le lâcher-prise en fait, il s'est fait dès le moment où on est rentré dans cette voiture où on s'est dit il ne faut pas se parasiter l'esprit. Là, c'est-à-dire que si on commence à se prendre le chou maintenant, c'est la merde. Donc il y a eu ce lâcher-prise et les
donc
choses
c'est sont venu de suite. Quoi. C'est venu de suite et c'est, vous êtes libéré de suite de quelles que soient les de contraintes
exact.
Que vous auriez pu effectivement, on pourrait se mettre comme ça, qui serait un frein. Mmh. D'accord.
On s'est émancipé de notre mental. À ce
d'accord, c'est beau. C'est
on a laissé le mental de côté d'accord. Et il est revenu immédiatement après quand on l'a rendu. Quand on revient évidemment dans ce qu'on a laissé. Quoi. Mmh. Donc ouais, c'est ce lâcher prise qui nous a conduit au bout de 4 jours, sur une journée, voir des bœufs musqués sauvages, des rennes sauvages, dans le vide quoi, rien de rien.
D'ailleurs, tu as eu une photo, une très belle photo que tu avais exposée sur des bœufs musqués et tu nous avais expliqué, puisque quand on était venu voir ton exposition, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ce moment qui est exceptionnel quand même.
C'est vrai que c'était un excellent moment. Ben, on arrive, on se gare, il y avait une voiture à côté de nous et on voit les gens partir équipés, combi, raquettes, etc. Et nous, jean Levi's, chaussures Go Sport à 30 euros, chaussettes de foot et à marcher, à suivre leur chemin dans l'immensité blanche, vraiment. Ce seul chemin qu'il y avait à marcher, pensant tomber au moins sur les rênes, mais sans attente aucune. On n'avait aucune attente et je pense que ça y fait également. Au moins, on n'est pas déçu. Donc, on cherchait un poste d'observation et on ne pense pas le trouver. On s'arrête à un petit abri et c'est là qu'on voit le troupeau. En effet, il y avait peut-être une cinquantaine de rennes qui marchaient en file indienne, faire en formation, quoi. De là, on continue à avancer, avancer, avancer pour s'en approcher. Donc, le renne est assez craintif.
Ouais.
C'est assez aléatoire comme déplacement. Donc, on a pu les voir quand même. Déjà, on a pu les voir réellement. Et de là, donc, on était quand même à hauteur et on voit 4, 5, 6 taches noires au bas de cette montagne. Et je me dis, bon, c'est bœuf musqué. Dans ce blanc, ça peut être que ça. En plus, ça mouvement, ce n'est pas des gros cailloux. Donc, on descend et en effet, c'était bœuf musqué. On descend, et là, on tombe sur un groupe de Français qui était en fait garé à côté de nous.
D'accord, une coïncidence parce que dans ce. C'est un petit peu dans un endroit un peu
désert.
Perdu, désert, là, te retrouver avec des Français donc, qui parlent ta langue en plus. Donc,
c'est arrivé parler anglais et qu'on nous réponde en français et se dire ouais, c'est quand même assez hallucinant. Et heureusement qu'on est tombé sur ces personnes-là parce que déjà, ils connaissaient, ils étaient là pour les animaux.
Ouais.
Et ils nous ont permis de rester à distance, de nous expliquer comment fonctionnait leur famille, leur système familial, etc. Parce que oui, évidemment, je serais allé un peu plus près. Et donc, heureusement qu'il y avait ces gens-là.
Oui, parce qu'il faut expliquer quand même qu'un bœuf musqué, c'est pas un animal de compagnie, quoi.
Voilà, donc, ça charge des trains, et puis comme n'importe quel être vivant, on s'approche, ils n'ont rien demandé, on les dérange, forcément, ça se révolte, quoi. Donc, ouais, ce fut la première séance, la première douche émotionnelle. Ouais.
Grosse émotion.
Grosse douche émotionnelle. Déjà, le fait d'y être confronté, même si ça aurait été dans un cadre, on va dire, zoologique, ça aurait été quand même assez hallucinant. Mais là, dans un cadre où il n'y a que nous deux, et qui tombons sur ça, où même le guide du routard dit « vous avez très peu de chance d'en voir
».
Et la veille, on avait dormi chez une Française, en coach surfing, qui nous avait dit « moi, ça fait un an que je suis là, j'en ai jamais vu, même les aurores boréales
».
Donc, c'est le lendemain qu'on a eu cette journée-là. Donc, arrive le retour, le retour de la marche.
Ouais.
Parce qu'on avançait, 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 sous l'excitation. Mais le soleil se couche très vite.
D'accord.
Et il se couche avec les degrés.
Ouais.
Et arrive ce moment où, en effet, j'ai découvert le froid.
D'accord. Donc, c'est là où il faut faire très vite pour rejoindre.
Il faut être équipé, surtout. Ouais. En fait. On ne peut pas se permettre de rigoler. Quoi.
Ouais, ouais.
C'est pas de la déconnade, c'est vraiment le froid en dehors.
Ouais, ouais.
Au point où on arrive dans la voiture, il faisait moins de 17. Et là, je pouvais plus enlever les chaussures. Quoi.
Tellement que tu avais froid.
Tellement qu'il faisait froid. On a mis une heure à se réchauffer à peu près.
Ah ouais, ouais.
Et là, quand ça se réveille, par contre, on sent qu'il y a eu un endormissement.
Ça pique.
C'est comme des grosses. Ouais, c'est des injures.
Ah, d'accord.
comme des grosses crampes.
Donc là, ça remet un petit peu les choses en perspective, enfin, ça remet les choses un petit peu dans la réalité, à se dire, attention, il ne faut pas que j'aille peut-être trop loin, il faut que je fasse attention peut-être.
Exactement, puis on se rend compte aussi que ouais, on est vraiment dans un espace naturel où on n'a pas de, on a aucune maîtrise en fait. Ouais. Là, il n'y a plus un téléphone ou une télé pour nous sortir de la merde. Ouais. Et puis on l'a occasionné, c'est toujours pareil. Ça qui est intéressant, c'est que c'est un moment qu'on a créé. Donc forcément, ce qui est encore plus beau, c'est que c'est dans l'effort. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus un grand randonneur, mais marcher dans de la neige jusqu'aux genoux, etc., monter, descendre, il y a tout l'effort physique aussi qui permet... de créer cette émotion-là, au-delà de tomber sur ces animaux-là.
Bien sûr.
Donc il y a aussi le revers de médaille qui est, bon, vous avez eu cette chance-là de voir ces animaux-là, par contre, il va falloir aussi subir l'environnement dans lequel il est, exactement.
Oui, c'est pas quelque chose de gratuit, mais pas au sens où on paye, mais gratuit dans le sens où il faut se le gagner, quoi, c'est ça. Hein.
Exactement. Ouais. Plus ça a plus de saveur, c'est plus agréable.
Tout à fait. Oui, c'est... Ce n'est pas les oiseaux, quoi. Voilà.
Ouais. J'aurais pas apprécié faire l'exposition si ça aurait été... ça serait fait en 5 minutes, quoi. J'aurais fini mon BTS photo, j'aurais fait mes photos comme je les ai présentées, ben ça aurait un goût de...
Ouais.
Ça n'a pas de saveur.
Je comprends.
Ça n'a aucune saveur.
Je comprends.
Donc ouais, la difficulté,
Et donc, c'est partie du jeu. Dans ton exposition, tu parlais des aurores boréales, effectivement, tu as vu aussi, puisque tu as photographié, il y avait des aurores boréales dans ton exposition. Donc ça aussi, j'imagine que c'est quelque chose qui t'a touché peut-être.
Ce que j'aimerais relever, que je n'ai pas dit au début, c'est... Il n'y a pas de problème. J'aurais dû le dire directement, c'est aussi toutes les mauvaises zones qu'on peut avoir avant le voyage et pendant. C'est-à-dire que déjà, dormir dans une voiture en Norvège en plein hiver, forcément, c'était critiqué. Deuxièmement, faire cette marche dans la neige, c'était totalement inconscient. Et aussi le fait que les aurores boréales, enfin, il n'y avait pas ces... On ne pensait même pas en voir vu qu'on était en fin d'hiver.
D'accord.
Et donc, le même jour qu'on a vu ces animaux sauvages, on monte jusqu'à la ville de Trondheim, donc qui est le centre de la Norvège, mais qui aime le...
Comment tu dis Trondheim ?
Trondheim.
D'accord.
Mais qui est quand même au nord de la Norvège. Et c'est là, le soir même, on s'est calé, donc la fatigue, etc. Donc forcément, on est cloîtré dans cette voiture où c'est le toit est bas, on est à deux à faire à manger au réchaud, contre la portière, etc. Donc il y avait une tension qui n'est pas relationnelle.
Ouais.
Il y avait une tension fatiguée, etc. Et au moment où bon, je verbalise le fait que bon, on se fait la gueule ou comment ça se passe, on ne se dit rien, arrive l'aurore boréale juste à la fenêtre, qui a duré 3-4 heures, où là, le silence total, le seul truc. Voilà.
C'est déclic de suite.
Le silence pendant 2 heures dans le froid, on ne sentait plus le froid ni rien. Ouais. On n'entendait que le déclencheur des appareils photo.
Ouais.
Et c'est vrai que c'était assez extraordinaire. C'est hors du commun en fait. À ce moment-là, ouais, c'est pas la suite que j'ai réellement eu ce sentiment où je me dis, ouais, si la mort c'est ça, c'est vrai que je pourrais y aller.
Je pourrais y aller, d'accord.
Ce sentiment, ouais. Mais là, se dit, ouais, là on passe le cap du hasard et de la chance, vraiment quoi.
Bah oui, les bœufs musqués.
Dans la même journée.
Les rennes. les aurores boréales.
Dans la même journée. C'est... Et le tout dans cette voiture aussi. Enfin, c'est ça qui est
incroyable. Alors justement, on va revenir un petit peu à la voiture. Parce que tu m'avais dit que tu voulais au début une voiture...
Un Scénic, une Opel
Merlot. Quelque chose qui permet de faire un road trip. Et tu as eu à la place de ça une voiture plutôt de sport que tu voulais. Enfin, c'était pas du tout ton...
C'est l'extrême opposé. À la fois opposé. Sur tout.
D'accord.
Sur le prix, sur la taille.
Donc là, par rapport à ça, j'ai une question. C'est quel a été ton budget pour cette aventure? Parce qu'apparemment, j'ai l'impression que c'est un budget qui était un peu serré. Et comment tu le vivais? Parce que tu nous as dit que tu vivais dans ta voiture. Enfin, vous viviez tous les deux dans la voiture parce que vous étiez deux. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, s'il te plaît?
Alors, au départ, on voulait partir en Islande.
Ouais.
Et on avait un budget de 700 euros chacun.
D'accord.
Et je dis, l'Islande, c'est être très, très ric-rac, en fait. Ouais. Et donc, par la suite, j'ai découvert qu'il y avait un pont entre le Danemark et la Suède que j'ignorais totalement.
Ouais.
Et c'est là que je me suis dit, bon, le Danemark, c'est peut-être moins cher. On loue la voiture là-bas et on fait ça en dormant dedans, quoi. Il n'y a pas le choix parce que c'est être hors de prix pour dormir. Donc, on est parti avec ce budget-là. Donc, on le respectait. Même arrivé à la location, c'est-à-dire que la location de cette BM, on l'a eu au même prix que l'Opel Meriva.
D'accord.
Donc, c'était 400 euros pour les 2 semaines.
Donc, ça veut dire qu'il vous restait 300 euros.
Exactement. Il nous restait 300 euros pour manger.
D'accord. C'est 400 euros pour la voiture. Donc, il vous restait de...
Voilà. C'était 200 euros chacun pour la voiture.
D'accord.
Donc,
il vous restait 300 euros.
Il nous restait 500 euros.
Oui, d'accord.
Avec les billets.
D'accord.
Et en fait, arrivent les péages, arrivent les ponts, les bateaux à prendre pour traverser les fjords. Et on mangeait qu'une fois, c'est-à-dire que j'avais prévu énormément de soupe en sachet lyophilisé, des pâtes chinoises, tout ce qui pouvait se faire à l'eau chaude.
Tu disais que tu mangeais une fois, vous mangez qu'une fois par jour.
Ouais, d'accord. On mangeait le soir.
Donc c'était effectivement...
La diète.
D'accord.
Mais après, on est tellement dans l'engouement du voyage que on n'est plus dans le physique.
Ouais,
on
n'est
plus vraiment dans le physique.
Je comprends.
Donc,
je comprends.
Se détache un peu de...
Là, tu disais que c'était le lâcher prise. Pour là, c'est non seulement c'est le lâcher prise, mais c'est vraiment un détachement de soi, de son être, pour être dans le contemplatif et dans le voyage. Je ne sais pas si je l'exprime correctement.
Oui, voilà. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Sinon, c'est des conditions particulières. Déjà, le fait de dire on va devoir faire 13 nuits dans cette voiture, sur des sièges en cuir baquet, sans et dans le froid, quoi.
Vous aviez des duvets, vous
aviez... on avait quand même un duvet qui tenait bien chaud, mais c'est vrai que c'était... On a eu froid qu'une seule nuit, parce que je crois qu'on a pris l'humidité. Et après, non, les nuits se sont bien déroulées. Et puis, de toute façon, on ne peut être qu'heureux, en fait. On se dit, dans tous les cas, on ne paye rien. On est quand même dans une voiture et on est à l'abri du froid. Donc, dès qu'on a cette notion-là, on se dit, ça va.
Ouais.
Ça va. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de gêne par rapport à ça.
D'accord. Donc, une question un peu... bon, qui peut paraître un peu... côté pratique, vous n'aviez pas forcément de toilette, ni de douche, ni ce genre de choses.
Exact. Bon, après, la toilette, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de se doucher tous les jours.
Voilà.
Premièrement.
Donc, on...
Ensuite, les toilettes, il y a station de service, etc. Donc, c'était pas un souci. Puis aussi, bon, je pense qu'il y a de la place pour pouvoir faire ses besoins.
N'importe qui. Dans la nature.
C'est toujours plus sympa que de faire caca dans l'eau potable.
Ouais, je comprends, oui.
Donc il y a ça, puis on a fait du coach surfing, donc une nuit chez une Française qui était là-bas depuis un an et une nuit chez un Norvégien, donc ce qui nous a permis en effet de se doucher, de se laver, donc puis ça suffit quoi. Après voilà, on le prend en considération, on le sait très bien quoi, on le sait.
Donc ce voyage a duré, tu peux me répéter combien de temps ?
En tout ça a duré 3 semaines.
3 semaines.
2 semaines là-haut et 1 semaine en Espagne.
D'accord.
Donc 4000 km en tout, donc traversée de la côte ouest suédoise.
Ouais.
Et jusqu'à Trondheim et redescendre tout l'ouest norvégien jusqu'au sud, refaire la boucle jusqu'à Oslo et redescendre à Copenhague.
D'accord, waouh. Et donc, bien sûr, il y avait une thématique, il y avait plusieurs thématiques, mais surtout, tu voulais, c'était autour de la photo, hein, parce que tu es photographe, tu te destines à être photographe, parce que tu es photographe, tu te destines à venir plus tard, actuellement ton métier.
On peut dire ça.
On peut dire ça. Et donc là, tu as rapporté une série que tu as appelée 4 ans après, c'est ça ?
4 ans plus tard.
4 ans plus tard, pardon, excuse-moi. Donc, ton but, c'est de continuer dans ce domaine-là, d'exploration un petit peu.
Je trouve mes mots.
Bien
je cherche ma réponse. Ben je trouve que ça fait partie des meilleures récompenses, je pense, qu'on peut donner à son entourage et même à des personnes qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que bon, c'est mon parcours, ce sont les images que j'ai vues, mais énormément de gens voient ces images. Je pense que les gens, ils ont besoin de voir de belles images, mais ils ont besoin de voir du vrai et puis savoir qu'on est quand même dans un monde, comme un mot qu'on m'a laissé le jour de l'exposition, c'est que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre.
Ouais.
Et je suis sur ces raisonnements-là.
D'accord.
D'où ces photos d'aurore boréale. J'ai envie de chercher ce qui reste en fait de magie quoi.
Alors je vais faire une petite parenthèse si tu veux bien. On a parlé de voyage, on va y revenir, mais dans ton exposition il y a une photo qui m'avait pas mal touché et j'aimerais que tu me racontes un petit peu l'histoire de cette photo. C'était une photo où on voyait une plage, il y avait un tronc d'arbre et il y avait une dame assise sur ce tronc d'arbre, et tu m'as raconté cette histoire, j'aimerais que tu me la racontes à nouveau s'il te plaît.
Très bien. Alors, c'est la personne qui se trouve sur le tronc d'arbre s'appelle Dani. Donc Dani, c'est une dame chez qui je travaillais quand j'étais auxiliaire de vie. Donc on vous présente la personne d'abord au bureau, donc sous forme de papier, fiche de description, Daniel, Tang, tel âge, AVC à tel âge, à des oiseaux, faire attention à ci, faire attention à ça, tel étage en palo. Donc c'est les seules infos qu'on a. Donc arrive toujours cette boule au ventre que j'avais à chaque fois, c'est les nouveaux clients, entre guillemets, j'aime pas le terme client. Les nouveaux,
on peut dire patients peut-être, parce que
les nouvelles personnes qui ont besoin d'aide quelconque dans leur quotidien. Et donc cette dame-là avait fait un AVC quand elle avait 56 ans, donc à quelques années de la retraite. AVC qui lui a paralysé tout le côté gauche, donc il y a un siège moteur, etc., etc. Donc tout ce qui va avec quoi. Et donc je découvre cette dame, c'était à 14h, je m'en souviens, je vais chez elle. Et je suis parti de chez elle à 23h au lieu de 18h quoi. Donc
d'accord.
Ça a échangé énormément. Et donc quelques jours après, je dis, bon Dani, je vous amène à la plage quoi. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu la plage ? Bon, mais voilà, on va y aller. Donc sur mon temps perso, j'ai pris la voiture de ma grand-mère. je l'ai mis dedans, donc évidemment toute la pression qu'il y a avec, c'est-à-dire que j'ai pas de formation en tant qu'auxiliaire de vie, j'ai pas de formation de secouriste, ni rien. Elle, il y a le temps de trajet non plus, la voiture, elle a pas fait autant de trajet. Donc il y a tout cette appréhension, cette angoisse qui me pesait, puis arrive la même notion que cette BM en fait, le lâcher prise. Vivienne, tu t'es engagé à ça, lâche prise, si tu veux que ça soit bien, il faut lâcher prise. Donc je raisonne un peu dans fais 50% du taf et 50% fera le reste. Quoi. Et donc on arrive à cette plage où là ben, on est tous les deux et déjà il lui pousse un peu des ailes. Quoi. Rien que l'environnement, c'est vital, l'environnement est vital. Donc main dans la main, à marcher jusqu'au bord de l'eau, je dis on va pas s'arrêter sur le parking. Et je l'amène et arrive là, ben, ce fameux tronc d'arbre, quoi, comme s'il était posé là exceptionnellement pour ce jour-là, parallèle à la plage, parallèle à l'horizon. Elle s'assoit là, elle est restée plus de 2 heures et je me dis bon viens va faire ta photo. Je me recule pour faire la photo et je me dis je suis en train de faire la meilleure. Et je pense qu'à ce moment-là, ouais, c'était très émouvant, franchement, c'était très émouvant.
Bon, on le sent sur la photo, on le sent qu'il y a beaucoup d'émotions sur cette photo.
Je pense que ça fait partie des choses qu'on faut pas, des coches à pas louper dans la vie. Et je pense que celui-là, je suis bien content de ne pas la louper, être allé au bout de ce que je pensais, ce que je voulais faire. Et ça a permis d'entretenir une amitié formidable, ça a permis d'approfondir dans mon boulot, ça m'a permis énormément de choses.
Ouais, c'est une belle rencontre, quoi.
Ah ben là ouais je pense que le terme belle rencontre et puis le terme bonheur prend tout son sens avec cette photo là. Enfin du moins c'est des photos comme ça que j'ai voulu présenter quoi. C'est des moments, je vais pas dire le discours cucu de la photo unique mais c'est fallait la faire quoi. Fallait la faire et ça se partage.
Tout à fait oui.
Donc il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait de valeur à donner à cette photo quoi parce que si j'ai... c'est inestimable.
Mais c'est effectivement, donc c'est une photo dont je mettrai une, j'essaierai de mettre une petite photo de, si tu me, peux me prêter une, enfin, me donner une photo pour mettre sur le, un extrait de cette photo pour mettre sur
complètement.
Le,
je pense complètement. Qu'il faut l'avoir pour
un... Et voilà, comme ça, vous le verrez dans l'article de, du podcast, hein, vous pourrez juger un petit peu de l'émotion qui en ressort. Très bien, très bien. Et on avait parlé aussi quand j'étais venu te voir pour l'exposition de quelque chose qui te tient à cœur. On en a parlé un petit peu en début de cette interview, un petit peu de ce thème de voyage, quelque chose qui t'intrigue. Tu m'avais parlé des pyramides.
Exact.
Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît?
Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Donc à partir de là, la seule chose qu'on a de palpable physiquement, que n'importe qui qui puisse avoir un jugement ou un esprit critique, en fait, c'est-à-dire n'importe qui, peut aller sur ces sites-là, qui sont que des monuments en pierre, où les questions persistent. En fait. Et les pyramides, évidemment, restent quand même le site le plus... Enfin, ça fait partie des sites les plus énigmatiques, et c'est ça qui m'a conduit à faire les photos que j'ai faites et les voyages que j'ai faits, qui est qu'on n'a pas de réponse, en fait. C'est-à-dire qu'on a beau savoir énormément de choses maintenant, aller très vite sur beaucoup de points, on ne sait pas le pourquoi, le comment, le qui, le quoi, toutes ces questions-là sur ces monuments-là. Donc ce qui m'intrigue, c'est à la fois ce voyage dans le temps et ce voyage aussi géographique. Quoi. Et en fin de compte, la géographie et ces lieux-là sont intrinsèquement liés quand même.
D'accord.
C'est pas anodin.
D'accord. Tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît?
On va faire le parallèle avec l'île de Pâques, où là on a une roche, on a une roche qui est humide, donc de la roche volcanique, et qui est à 10 000 fois le nombre d'or de la Grande Pyramide, qui elle est en pierre sèche, donc du calcaire, entourée d'un désert, l'île de Pâques étant entourée d'eau. Donc il y a toute cette polarité-là, et donc ces sites-là sont vraiment la signature des lieux où ils sont, en fait. C'est-à-dire que la pierre correspond au lieu, la géométrie, la symbolique, etc., correspondent à chaque fois à la culture, on va dire, géographique qu'il y a dans ces régions-là. Quoi. Je ne sais pas si c'est très clair.
Si, ça l'est pour moi, ça l'est très clair, et j'espère que ça sera pour nos auditeurs. Donc, il y a par rapport à ça, tu m'avais parlé également si je n'ai pas retenu le terme, d'un équateur penché. Donc, tu m'as parlé de l'île de Pâques et des pyramides. Et donc, il y a d'autres sites, tu parlais de sites. Est-ce que tu peux en énumérer certains qui t'intriguent et qui, je pense, t'inciteront peut-être à aller visiter un jour.
Voilà. C'est là que je me dis, la vie n'est pas assez longue.
Voilà.
Et que bon, on doit voir ce qu'on a à voir, on ne peut pas tout voir. Donc en effet, il y a un équateur penché incliné à 30 degrés de notre équateur, sur un bandeau, sur une tranche de 100 km, qui fait tout le tour du globe, donc 40 000 km, la même distance que notre équateur. Et donc sur cette bande de 100 km de large, on retrouve l'île de Pâques, Les sites péruviens avec Machu Picchu, Sacsayhuaman, Ollantaytambo, les lignes de Nazca, etc. On passe par Tassili N'ajjer en Algérie. On passe forcément par les grandes pyramides en Égypte. On passe par Petra en Jordanie. Quoi d'autre ? L'Iran, on passe par Persépolis, Ur en Irak, Angkor Wat au Cambodge, et il y en a 42 en tout. Ouais. Là, je vous balance ce qui me vient.
Ouais. C'est déjà un bon sujet.
Pietrivière, je crois, c'est ça, Pietrivière, au Vietnam, et ouais. Khajuraho en Inde.
D'accord.
Ça fait partie des sites que j'ai gardé en tête.
D'accord.
Donc il y en a 42 en tout.
D'accord.
Et ça reste des sites mégalithiques, donc de la pierre, uniquement de la pierre.
Mm.
Des pierres polygonales en plus, enfin, à l'occasion. C'est-à-dire que chaque pierre est de forme différente. Ce qui nécessite un travail
énorme.
Hallucinant.
Ouais, énorme. Et,
et on ne parle pas de blocs identiques.
Et voilà, et qui appelle à une certaine interrogation, quoi, une certaine questionnement. Quoi. Et donc c'est peut-être quelque chose qui t'anime et qui pourrait faire un lien, enfin qui va faire un lien certainement avec ton travail de photographe. Hein.
Ben déjà, ce qui m'anime dans ce sujet, enfin, ce qui m'a convaincu de me lancer là-dedans, c'est qu'en fait, immédiatement, on brise les frontières, on brise les préjugés, les étiquettes. En fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que peu importe d'où on peut venir, la couleur ou les croyances qu'on a, on aboutit tous au même questionnement. En fait.
Ouais.
Donc déjà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Et puis après, il est vrai que photographiquement, ben, c'est esthétique. En fait. Mm-hmm. C'est, on a la sensation, au fur et à mesure de découvrir ces endroits-là, qu'ils devaient être là. En fait. Mm-hmm. Ils sont là où ils devaient être.
Ouais.
Et s'ils n'étaient pas là, je pense qu'on serait... Enfin, je sais pas, et si on met Paris en bouteille, mais dans le sens où ça peut être un choix hasardeux, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Si les anciens ils ont fait ça, c'est qu'il y avait des raisons. Et ces raisons-là, par la mesure physique, par la mesure astronomique, mathématique, etc., on peut confirmer en effet que ces monuments ont d'autres fonctions qu'une fonction funéraire, chose à laquelle je ne crois pas forcément
d'accord,
pour tous.
D'accord.
Là, c'est le sujet un peu houleux, avec les égyptologues, etc. Selon moi, il y a beaucoup de sites mégalithiques qui n'ont rien à voir avec des tombes.
D'accord. Et donc, c'est la ta quête un petit peu de ce que ça peut être, ou tu as une idée, ou tu as un sentiment de...
Déjà, c'est un développement sur ma spiritualité aussi.
Mm-hmm.
Forcément, il y a des questionnements qui n'arrêtent pas de se chevaucher. Après, la vérité, j'en sais rien. Je pense que je suis...
Est-ce que c'est intéressant finalement ?
Il n'y a pas à savoir, je pense.
Voilà, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que c'est intéressant de connaître la vérité ou de la chercher ?
Ah, il vaut mieux la chercher, je pense qu'on est là pour ça.
C'est plus intéressant de chercher que de trouver, quoi.
Une fois qu'on la trouve, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est un petit peu ça, quand même, la quête de tes voyages. Ce n'est pas la destination qui est intéressante, mais c'est le voyage en lui-même.
Exactement.
Ouais.
C'est exactement
on partage ce point de vue.
C'est exactement ça. Parce que il n'y a pas d'aboutissement en fait, je pense pas.
Non.
À moins d'être voyant, mais bon. Puis ce serait triste, quoi.
Je trouve aussi.
C'est comme la vie.
Ouais, ouais.
Comme pour citer un film américain, Maître Yoda, qui dit l'échec est le meilleur des maîtres.
Ouais.
Et c'est exactement ça, quoi. Ouais. Donc c'est pour faire le parallèle avec les bœufs musqués, etc. Si on n'aurait pas eu cet effort physique, etc., avec ce froid, etc., ben on n'aurait pas vu ce qu'on a vu, quoi.
Ouais, ouais.
C'est qu'à un moment donné, on est obligé de se vautrer, on est obligé d'échouer, on est obligé de. On le sait une fois
qu'on a fini. C'est très intéressant ce que tu dis et je voudrais rebondir là-dessus. C'est qu'on vit dans une société où finalement l'échec est montré du doigt. Tu t'es trompé, tu as fait ceci, c'est pas bien. Alors que finalement, l'échec, c'est pas vraiment un échec. Quoi. C'est, on a fait une erreur, mais cette erreur nous permet de grandir. Quoi, si on sait rebondir dessus. Je sais pas si c'est ce que tu dis.
Si. Après, j'aimerais bien savoir qui a réussi tout du premier coup. Ce serait intéressant à voir, mais
c'est vrai.
C'est pas possible.
C'est vrai, c'est vrai. Donc. Pour continuer là-dessus, donc là tu as fini ton exposition donc dans la maison de tes parents, c'est ça, hein, et donc tu vas partir. Donc la suite, ça va être quoi ?
Là, l'objectif, c'est de pouvoir essayer de répondre oui à la question est-ce que tu vis de tes photos ? Donc je vais aller vendre ces photos sur les marchés, donc me présenter aux gens directement, quoi, aux gens simples, enfin rendre la photographie accessible, en fait, qui s'est refermé. Ayant vécu un peu dans la bulle, dans la sphère photographique, c'est vrai que c'est un cercle assez fermé qui n'est pas forcément ouvert à tout le monde. Quoi. Mm-hmm. J'ai envie de rendre ça accessible, à la fois sur le point de vue de l'argent, mais aussi visuel. Quoi.
Mm.
Je pense pas que ce soit des choses à garder pour soi.
Ouais.
Donc essayer de partager ça le plus possible sur les marchés, et puis possibilité, si ça se fait, de pouvoir exposer dans des lieux qui seraient réceptifs à mes images.
Ouais.
Donc l'objectif, c'est ça.
D'accord.
Ça, écrire un livre illustré par mes photos, évidemment, sur ce projet de tous ces sites, quoi. Et puis sûrement un livre aussi de voyage en parallèle, pour essayer de faire un pont entre les deux qui est, je pense, inévitable. Et l'objectif, évidemment, le prochain voyage, si possible, ce serait l'île de Pâques.
Voilà, alors justement, j'allais venir à ma question, mon autre question, ça allait être l'après. Donc, quelle envie tu aurais de partir ailleurs? Donc, tu exprimes l'île de Pâques, donc pour les raisons que tu viens d'évoquer.
Totalement. Et puis aussi, en termes d'information, l'information, il y en a, c'est pas qu'il n'y a pas d'information sur l'île de Pâques, mais ce serait plus facile à ingérer pour moi l'information sur ce lieu que si je vais en Égypte, où là, c'est énormément de données à trier, à répertorier, à savoir, et je me sens pas encore prêt et mûr pour pouvoir aller sur ces lieux-là. Mais il est vrai que j'ai envie quand même de poursuivre, j'ai envie de retourner en Irlande. Poursuivre.
Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Quand tu es face aux éléments, tu l'as expliqué, quand tu es face au bœuf musqué, tu ressens quelque chose. Tu ne fais pas que voir, tu ressens. C'est de l'ordre de quelque chose qui ne s'explique pas.
Ça fait partie du monde du subtil, je pense. Donc, après, voilà, c'est ma spiritualité, mais je pense que les anciens, du moins les anciens ou les personnes qui ne sont plus forcément là, etc., ils ont un rôle qui n'est pas négligeable là-dedans. Ouais. C'est mon avis. Après, on croit ce qu'on a envie. Moi, je pense, en tout cas, je pourrais me permettre de le certifier par des exemples qui sont assez concrets. Et donc, ouais, ça fait partie. Ouais, c'est le monde du subtil, quoi. On ne le perçoit pas avec nos yeux. Et après, heureusement, je pense, parce que sinon, on virait à la folie. Puis chaque chose en son temps. On est là pour d'abord vivre une expérience physique. Ouais. Apparemment, c'est compliqué. Donc, et ensuite, voir le reste. Quoi.
D'accord.
Et puis oui, en effet, c'est vrai que quand on tombe sur des sites, que ce soit des menhirs ou même ces moments avec les animaux sauvages, c'est que soit on réfute violemment cette vérité qui nous balance à la gueule, qui est, voilà, on vit dans un monde immense, tu n'es rien, mais tu es tout. En fait. La notion du rien et de tout, là, elle est assez impressionnante. Et se dire, j'ai créé quand même ce moment-là.
C'est ça
qui est dingue. On ne se l'approprie pas. Mais on se dit, ouais, j'ai poussé toutes les portes pour aboutir là.
Donc en fait,
c'est ça qui est dingue. Là,
s'il y avait une leçon, on va dire, à donner, enfin, c'est peut-être pas le but, c'est peut-être pas le mot est peut-être un peu violent parce que leçon, c'est un peu peut-être présomptueux ou prétentieux, mais s'il y avait quelque chose à dire à d'autres personnes qui veulent se lancer dans des aventures, c'est que l'aventure est en toi, quoi, quelque part. Si tu as envie, par exemple, l'aventure que tu as menée en Scandinavie, qui est, pour certaines personnes, peut paraître hallucinante, partir avec un budget aussi serré que celui-ci, vivre dans une voiture, manger qu'une seule fois par jour, mais aller au bout de ce qu'on a envie. C'est quand même ça le...
La vie finit par nous le rendre, je pense.
Ouais. Oui.
Ou sinon, si ça vient pas, c'est qu'on a rien à foutre là, je pense. Je pense qu'il faut juste lire entre les lignes.
Apparemment, toi, la vie te l'a rendu, puisque ça t'a épanoui, ça t'a grandi.
Totalement.
Voilà. Et grosso modo, tu as compris vers quoi tu veux tendre dans la vie, quoi.
En tout cas, ce qui m'a fait du bien, c'est que ça m'a conforté dans ma spiritualité, ce qui est énorme. Ça m'a conforté aussi dans ma photo, évidemment. Ça m'a conforté dans « je suis capable » aussi. Rien que ça, parce que la confiance en soi, c'est pas trop mon fort. Et aussi, juste se lâcher prise. Je me dis, je peux arriver réellement à m'émanciper de toutes ces fausses pensées, en fait. Parce que les trois quarts de nos pensées, c'est même pas les nôtres. C'est de la pensée collective, c'est de la pensée parce qu'on a vu une affiche de pub, c'est de la pensée parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui vous a dit ça ou ça. Et donc, c'est vrai que essayer de faire le tri là-dedans, c'est vraiment un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête. Et quand on arrive à des moments où on n'a pas le choix, on a 600 mètres d'eau, les guibolles dans le vide ou face à des animaux sauvages, si on commence à réfléchir, c'est pas bon.
Oui, c'est vrai que il y avait cette photo magnifique où
j'étais obligé d'en parler, je suis désolé.
Non, mais tu as bien fait parce que
on souligne.
Parce que franchement, cette photo est extraordinaire. J'essaierai de la mettre également dans l'article. C'est une photo extraordinaire où on te voit assis. Avec 600 mètres de vide, où il y a une rivière, un fjord en bas, et moi-même qui me donne le vertige, je dois te le dire, moi-même qui m'a donné le vertige, que j'ai trouvé extraordinaire de, je ne sais pas si on peut dire de courage ou de réalisation,
de
lâcher prise.
Lâcher prise. Je ne sais pas si je suis un courageux ou pas, je ne pense pas. Mais dès qu'on aime, en fait, on se pose
on
même pas
faire.
La question.
D'accord.
C'est pour revenir à ce que tu disais avant, c'est l'amour en fait. C'est c'est que dans la société dans laquelle on est, il n'y a pas que l'échec. Qu'on montre du doigt, il y a la sensibilité. Qu'on montre du doigt, il y a l'amour. Qu'on montre du doigt, il y a le fait de faire différemment. Qu'on montre du doigt. Et ça, c'est un gros problème. Ouais. Limite, c'est honteux d'aimer.
C'est ça, oui.
Donc ça, c'est un vrai problème. Et dès qu'on est dans cette dynamique d'amour, ben, c'est, je pense que... dans ma croyance, je pense que l'univers, c'est créé par une pensée, cette pensée-là, pour créer cet équilibre, en fait. Mm. Donc, c'est comme... le voyage, je le vois aussi comme une relation avec une femme. C'est exactement la même chose.
Tout à fait.
Ça se construit, il y a les débuts, on n'ose pas, on est timide et arrive le moment où il y a le lâcher-prise,
ouais,
en fait.
Ouais,
et c'est nécessaire.
Exactement.
C'est nécessaire.
Je partage complètement ton point de vue. Donc, sur le voyage avec une relation, on va dire, qui peut être intime,
exact.
Où effectivement ça se construit de la même manière.
Je fais le parallèle comme ça.
Ouais. Eh bien, écoute, merci Vivien pour,
c'est moi qui te remercie.
Pour ton interview et pour m'avoir accordé du temps, franchement, qui était très précieux. Et je pense qu'on aurait beaucoup encore de choses, tu aurais beaucoup de choses à me dire.
Je pense.
Et je pense que ça sera l'occasion de peut-être de se revoir ou de te réinterviewer dans quelques temps, si tu le veux bien.
Ça serait un plaisir.
Voilà, mais c'est merci beaucoup.
C'est
et je te souhaite une bonne continuation dans tes photos et dans tes voyages. Voilà.
Merci beaucoup Thierry.
Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Je vous invite vivement à aller sur le site web de Vivien pour découvrir son travail. Je vous invite également à laisser un commentaire depuis votre application podcast sur cet épisode et à le partager tout autour de vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Au revoir.